S'aime comme un fou, c'est sur RTL et on s'aime comme des fous dans notre stop ou encore. Est-ce encore la folie pour Robert Charlebois? A-t-on les 90% d'encore nécessaires pour notre brasseur québécois? Oui, parce qu'il a lancé même une brasserie traditionnelle et les Français venaient même au Québec spécialement pour goûter la bière à Charlebois. Alors avec modération ou sans modération, la cerise sur le sundae comme disent les Québécois pour Robert. Quel score pour clôturer ce stop ou encore? On est à 94% d'encore. Tabernacle, c'est formidable. Mais désolé, on n'a plus le temps. On consacrera un nouveau stop ou encore à Robert Charlebois très vite sur RTL. On est tous fans et apparemment, Nadège aussi. Bonjour Nadège.
Bonjour.
Question piège, comment ça va Nadège?
Ça va.
Super.
Je vous parle, ça va.
Oh, c'est gentil. Vous êtes fidèle auditrice d'RTL et de Stop ou encore?
Oh oui.
Ah, génial.
Depuis toute petite.
Formidable. Pour récompenser votre fidélité, j'ai des cadeaux pour vous.
Oh.
Une montre RTL. Elle arrivera très vite, mais pas que.
Ah bon?
Mais non. On vous offre aussi une enceinte portable. Écoutez bien le nom de code M970BT de Muse. Entreprise française Cocorico. Elle résiste aux projections d'eau. Si vous avez des vacances, vous pourrez même l'embarquer avec vous.
Super.
Bah félicitations.
C'est top.
Bah ça vous.
Merci beaucoup.
Et si on, je vous ai même pas demandé, vous faites quoi dans la vie?
Je suis technicienne de laboratoire.
Waouh. En vacances ou en plein boulot? Là, vous reprenez demain.
Non, en plein boulot. En plein boulot, je suis là.
Ah, c'est vrai, vous travaillez le dimanche?
Ah oui.
Ah bah, courage à tous ceux qui travaillent le dimanche et à vous encore plus, Nadège.
Merci.
Je vous embrasse très fort.
Merci beaucoup.
Félicitations à vous et merci d'être avec nous.
Merci.
Au revoir et merci à vous tous d'avoir choisi RTL. Merci pour votre fidélité. RTL, il est midi. C'est avec vous Charles Ducrot. Bonjour Charles.
Bonjour Élodie, bonjour à tous. La rue Le Pic et la butte Montmartre retrouvent une saveur de fête olympique cet après-midi. Un an après le passage de l'épreuve cycliste des JO de Paris, le Tour de France empruntera ces mêmes pavés cet après-midi à trois reprises avant l'arrivée mythique sur les Champs-Élysées. Bonjour Guillaume Ouattara.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
L'attente du bouquet final, on y reviendra dans votre journal.
132 km entre Mantes-la-Ville dans les Yvelines et les Champs-Élysées. Tiens, est-ce que vous saviez que ça ne fait que 50 ans que la Grande Boucle arrive sur les Champs? La légende dit que c'était le journaliste Yves Morosi qui avait alors soufflé l'idée à Valéry Giscard d'Estaing. De légende, il sera évidemment question avec cette plus que probable quatrième victoire pour Tadej Pogacar. Mais la butte Montmartre et ses pavés réservent toujours quelques surprises. On y sera dès le début de RTL Midi, midi 30, 13h.
C'est pris, le rendez-vous est pris avec vous Guillaume Ouattara et les derniers kilomètres de la Grande Boucle à vivre cet après-midi sur notre antenne dès 16h, toutes les demi-heures, l'ambiance et l'arrivée ne manquaient pas. Également notre club Jalabert spécial à partir de 19h. La Tramontagne continue de souffler fort mais la situation est favorable, indiquent les pompiers de l'Aude. Le feu de Sigean au sud de Narbonne est maintenant circonscrit et stabilisé après avoir parcouru 630 hectares. Plus de 600 pompiers restent mobilisés avec l'objectif de le fixer désormais. Sur place, le préfet de l'Aude, Christian Pouget, souligne toute la délicatesse de l'opération.
Une zone touristique, trois villages avec un nombre de populations importante, un week-end de chassés croisés sur les routes. Évidemment, les conditions n'étaient pas bonnes. Et donc, grâce à l'action des pompiers sur le terrain, on a pu maîtriser la situation. Mais ça montre toute la fragilité du dispositif, puisque un mégot, même si on ne sait pas aujourd'hui quelle est l'origine de ce feu, et les enquêtes sont en cours, mais on voit bien que la moindre imprudence peut provoquer très rapidement des situations potentiellement dangereuses.
Le préfet de l'Aude au micro RTL de Valentin Larquier. Au Moyen-Orient, le bateau Andala, avec à son bord des militants pro-palestiniens du mouvement Flotille pour la Liberté, vient d'accoster en Israël. Ce navire avait été intercepté hier par l'armée israélienne alors que il se dirigeait vers Gaza avec de l'aide humanitaire à bord. Aide humanitaire qui afflue ce matin depuis la frontière égyptienne. Des images de camions qui entrent dans la bande de Gaza. L'ONU confirme la mise en place de couloirs permettant l'acheminement de vivres après plusieurs mois de blocus israélien. La météo, journée orageuse au nord et à l'est avec de possibles gros orages concentrés ce soir sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Le ciel est nuageux partout ailleurs avec des averses et des éclaircies de plus en plus rares. A contrario, le soleil brillera pleinement sur les régions méditerranéennes. Au meilleur meilleure de la journée, comptez 21 degrés à Rodez et Dunkerque, 23 degrés à Paris, 25 à Périgueux, 28 à Nice, 30 degrés pour Bastia. Les courses pour finir, elles sont à la Teste de Buch tout à l'heure, départ 15h20. Alexandre de Koopman vous conseille de jouer le 16, le 14, le 15, le 11, le 12, le 2 et le 10. L'outsider d'RTL, le numéro 12. Il est midi 3 sur RTL.
Oui, merci beaucoup Charles. J'ai noté tous les pronostics et puis on se donne rendez-vous tout de suite. Restez bien sur RTL. On va entrer ensemble dans l'histoire avec Laurent Deutsch qui nous parle d'Eleanor Roosevelt, une first lady pas comme les autres. Et nous, on se donne rendez-vous même heure, même pomme pour un stop ou encore samedi prochain. Je vous embrasse fort. Merci Charles.
Bonne journée.
Jusqu'à 12h30 sur RTL.
Entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Drôle de dame que cette Eleanor Roosevelt. Avec le nom de famille qu'elle porte, vous vous dites automatiquement qu'elle est sûrement une femme de. Mais femme de qui? Bon, femme d'un président américain, c'est certain, mais lequel? Parce qu'il y en a eu deux des Roosevelt. Théodore, le président de la Belle Époque, et Franklin, l'homme qui a dirigé l'Amérique durant la Seconde Guerre mondiale. Mais si Eleanor était une Roosevelt, à la base, par elle-même, sans avoir eu besoin d'un homme pour accomplir son destin exceptionnel au service des droits de l'homme et de la femme. Alors, restez à l'écoute, parce que dans quelques instants, vous avez rendez-vous pour un tea time avec une femme de courage et d'engagement, une sacrée femme qui a livré bien des combats dans sa vie.
Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire.
I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when you break.
Damiano David, Next Summer sur RTL. Next Summer qui est le deuxième single du chanteur du groupe Maneskin, qui là est en solo.
Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire.
Devenir gentil, sacrée mission.
Il faut qu'on prouve au monde qu'on est gentil.
Alors que les bad guys tentaient un nouveau départ.
On a besoin des bad guys pour faire le plus grand cast de l'histoire.
Les bad girls ont décidé de les faire replonger. Les Bad Guys 2, le film d'animation de l'été signé DreamWorks. Avec les voix de Pierre Ninet, Jean-Pascal Zadi et Alice Belaïdi. Le 30 juillet au cinéma. Ça va péter.
Désolé, c'est le stress.
Avec RTL.
Info, culture, jeu et humour. Yeah, let's do expression of love. You shall be.
sur RTL.
9h15, 10h, le classement RTL de vos chansons préférées. Présenté par Éric Jean-Jean.
Tout l'été, je vous révèle le classement de vos chansons préférées. Chaque semaine, une thématique et cette semaine, vous allez découvrir vos 50 chansons de films préférées. Rocky, La fièvre du samedi soir, 9 semaines et demie. Quelle est votre chanson plébiscitée? À demain, 9h15 pour la réponse.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Rémy Le Crénier. En Belgique, un jeune homme installé dans une famille, futur gendre, un matin, il va tuer la mère et les trois filles sans jamais trembler. Comment l'invité de la famille est-il devenu un assassin? Rémy Le Crénier, le tueur à l'arbalète. L'heure du crime, ce soir, 21h sur RTL.
L'heure du crime, c'est l'émission fait divers la plus écoutée de France. Laurent Deutsch sur RTL. Entrée dans l'histoire d'Eleanor Roosevelt.
Nous sommes en 1903. Eleanor a 19 ans et soudain, elle s'écrie « Franklin, il faut que tu vois ça de tes propres yeux. » Et non, les amis, tout cela n'a rien à voir avec son futur mariage et avec les fanfreluches qui vont avec. C'est pas du tout ça qui la passionne. Nièce du président des États-Unis en exercice, Theodore Roosevelt, elle vit à New York dans les quartiers huppés, mais son âme charitable la pousse à vouloir aider les autres. Pas seulement en faisant l'aumône aux pauvres, mais en s'engageant concrètement. Elle a trouvé une association, la Rivington Street Settlement, dans laquelle elle s'investit. Cette association, c'est une sorte d'université populaire qui délivre des cours aux femmes du Lower East Side, qui est alors le quartier misérable du sud de Manhattan. Et ce jour-là, Franklin Roosevelt, son futur mari, l'a accompagné. Franklin, il faut que tu vois ça. Il faut que tu vois avec moi ce que l'on peut faire pour les autres. Et ce jour-là, Eleanor ne se contente pas de lui présenter ses collègues et de lui parler de son travail. Non, elle l'entraîne là où il n'est encore jamais allé de sa vie, c'est-à-dire à la rencontre du petit peuple de New York, celui qui a cru au rêve américain et qui a découvert la vraie réalité d'un monde moins libre, moins égal et moins fraternel. Le jeune couple déambule dans les rues du quartier de Houston Street. Là, dans de sordides masures dépourvues d'hygiène, s'entassent les plus miséreux des immigrants. Pour Franklin, c'est un véritable choc. Oui, c'est là que vivent, enfin, survivent plutôt, les élèves de sa jeune fiancée. Cette journée a été un véritable électrochoc pour le futur président américain. À partir de cet instant, Eleanor et lui vont régulièrement revenir rendre visite aux plus pauvres des pauvres d'Amérique. Avec la volonté de faire en sorte qu'un jour, l'Amérique soit plus grande en parvenant à accorder une place digne à chacun de ses enfants. La petite Anna Eleanor voit le jour le 11 octobre 1884 dans l'une des familles les plus prestigieuses des États-Unis, les Roosevelt. Originaire des Pays-Bas, la famille fait partie des premiers colons arrivés sur le sol américain. En deux siècles, les Roosevelt, dont le nom signifie « champ de rose », ont fait fortune. Ils font la une des magazines pour leur élégance et leur art de vivre. Ils se partagent entre Hyde Park et Oyster Bay, deux localités chics des environs de New York. Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, pour notre petite Eleanor, si elle n'avait pas démarré dans la vie avec deux handicaps. Le premier est celui d'avoir été délaissée par ses parents, qui, de toute façon, vont mourir alors qu'elle n'était qu'une enfant. À 10 ans, la voici donc orpheline. Direction Tivoli, une autre jolie localité de l'État de New York, où sa grand-mère maternelle l'élève avec son frère. Eleanor passera ses années de lycée à Londres, où elle apprend notamment le français auprès de la directrice du pensionnat où elle étudie. Second handicap d'Eleanor, dès sa plus tendre enfance, sa mère n'a cessé de lui dire qu'elle était laide, au point de la persuader qu'elle ne trouverait jamais de mari. Sympa la maman, hein, hashtag folcoche. Mais là, au lieu de se transformer en jeune fille introvertie, accablée, ravagée, défoncée, tétanisée par cette sentence maternelle terrible et funeste, eh bien, Eleanor va décider de surmonter ce prétendu handicap. L'orpheline soi-disant disgracieuse va se transformer en femme cultivée et entreprenante, connaissant parfaitement les usages de la bonne société patriarcale de son temps. Et elle se révélera aussi apte à se saisir des opportunités qui vont se présenter à elle. Eleanor a 18 ans lorsqu'elle rencontre Franklin Roosevelt. À l'occasion d'une soirée à la Maison-Blanche, les jeunes gens sont présentés l'un à l'autre. Comment ne pas résister au charme du jeune Franklin ?
Hey, c'est Franklin !
Franklin, en effet, est cultivé, attentionné, et il appartient, comme Eleanor, à l'influente dynastie des Roosevelt. Oui, ils sont cousins, au cinquième degré. Lui appartient à la branche de Hyde Park, elle à celle d'Oyster Bay. Mais là, la mère de Franklin, de nature possessive, ne va pas être très favorable au mariage de son fils avec cette Eleanor, un brin quelconque, hein, elle est pas très belle. En plus, bon, ses parents sont plus là, c'est un peu un poids. Mais le jeune couple va tenir bon. Et contre la volonté maternelle, là encore, tiens, petite revanche à la maman décédée qui trouvait sa fille moche, leur mariage est célébré à New York le 17 mars 1905, le jour de la Saint-Patrick. Le président des États-Unis lui-même, Theodore Roosevelt, est l'oncle de la mariée. Et comme elle a perdu ses parents, hein, la jeune fille est conduite à l'hôtel par le président lui-même, par tonton Teddy. Quelle fierté! Ensuite, pas de voyage de noces prévu dans l'immédiat. Franklin doit terminer ses études de droit. Il a une idée en tête, faire de la politique. Un virus bien implanté dans la famille. Dans un premier temps, Eleanor offre l'apparence d'une femme au foyer bien rangée. Elle va s'occuper du ménage et de faire des enfants. Et de ce côté-là, d'ailleurs, le programme est bien rempli. Oui, en 10 ans, elle ne donnera pas moins de 6 enfants à son mari. Femme d'intérieur, mère de famille occupée du matin au soir, Eleanor peut à peine consacrer quelques heures par semaine à la vie mondaine, si importante pour Franklin. Oui, car en 1911, le voici sénateur du 26e district de l'État de New York. Le couple quitte alors la propriété familiale de Hyde Park pour s'installer un temps à Albany, échappant ainsi à l'emprise de la toujours aussi possessive Madame Roosevelt mère, hashtag folcoche numéro 2. Remarqué par le président Woodrow Wilson, Roosevelt devient en 1912 secrétaire adjoint à la marine à la veille de la Première Guerre mondiale, poste qu'il conservera durant toute la durée du conflit. De son côté, Eleanor élève une famille qui s'accroît d'un nouveau membre tous les 18 mois. La vie pourrait continuer ainsi, à l'abri du besoin. Mais le destin, souvent cruel, va frapper à la porte des Roosevelt un jour de 1921. Leur vie va s'en trouver bouleversée à tout jamais et prendre un sens nouveau. L'île de Campobello est une île canadienne dans la baie de Fundy. C'est là que la famille Roosevelt a pris quelques jours de congé en août 1921. Franklin avait besoin de se changer les idées. Quelques mois plus tôt, il a été candidat à la vice-présidence des États-Unis, mais c'est son adversaire, républicain Warren Harding, qui a été élu président. Alors, il a décidé de faire un break, histoire de se refaire la cerise. Mais le 7 août, alors qu'il effectue un plongeon dans une eau glacée, il en ressort avec une impression de paralysie dans les deux jambes. Le diagnostic est vite posé. Il est atteint de poliomyélite. À 39 ans, il va falloir se battre. Avec sa femme, ils vont devoir lutter contre l'adversité qui s'impose à eux. Mais bon, en matière d'adversité, Eleanor commence à être vaccinée. Oui, car 2 ans plus tôt, elle a découvert que son mari fréquentait secrètement une secrétaire. Sa secrétaire à elle, à Eleanor. Et entre Franklin et Lucy, la secrétaire, c'est du sérieux. Au point qu'ils continueront à se fréquenter durant un quart de siècle, au vu et au su d'Eleanor, qui, après avoir tempêté, finira par s'habituer à la situation. Avec courage, elle accepte de ne pas ébruiter l'affaire pour ne pas ruiner la carrière de son mari. Mais entre eux, ce ne sera plus jamais la même chose. Alors, en cet été 1921, lorsqu'elle fait le bilan, le constat est amer. Elle a 6 enfants, un mari handicapé, volage et à la carrière politique brisée. C'est là qu'elle se rappelle alors ses engagements de jeunesse pour les déshérités. Eh bien, se dit-elle, il est temps de se consacrer aux autres. de reprendre les combats qu'elle avait engagés puis interrompus quand le mariage l'avait éloignée de sa vie de militante. Car Eleanor le sait, elle est taillée pour le combat. Alors, elle continuera à soutenir son mari dans ses ambitions, quelles qu'elles soient, mais elle entend bien réaliser de son côté ses propres ambitions. Alors tant mieux si ses ambitions et celles de Franklin peuvent se rejoindre. Et ainsi, les années 20 vont être pour l'un et l'autre l'occasion d'un nouveau départ. Son premier engagement significatif, Eleanor le prend au sein de la League of Women Voters, au moment où le droit de vote est accordé aux femmes par le 19e amendement de la Constitution américaine. L'entre-deux-guerres est aussi l'époque du combat pour les conditions de travail et de rémunération des femmes, particulièrement scandaleuses pour les plus pauvres d'entre elles. Eleanor dénonce aussi l'esclavage domestique auquel sont cantonnées trop d'Américaines. Elle est devenue une activiste, ce qui ne gêne en rien la carrière de son mari, car celui-ci est l'un des leaders du Parti démocrate, attaché à la promotion des minorités. Leur lutte converge. En 1928, Franklin est élu gouverneur de l'État de New York. Dans une Amérique en pleine prohibition, et alors que la crise économique s'apprête à paralyser le pays, le couple Roosevelt est plus que jamais en phase avec une opinion publique qui cherche de nouveaux repères. Lorsque l'élection présidentielle de 1932 se présente, Franklin et Eleanor Roosevelt font campagne ensemble. Ils représentent une alternative progressiste et sociale contre l'inaction du président Hoover. La politique, c'est l'engagement. Eleanor peut en témoigner. Beaucoup de femmes américaines l'admirent et c'est un apport de poids pour Franklin, qui gagne l'élection présidentielle en 1932.
I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God.
Mais trois mois plus tard, alors qu'il prononce un discours à Miami, en Floride, un homme tente de l'assassiner. Cet attentat va souder le couple encore plus. Un couple qui va devenir le premier tandem politique de l'histoire américaine. Car même si elle n'est pas élue, Eleanor est toujours présente aux côtés de son mari durant une présidence qui va durer 12 ans, de 1933 à 1945, un record de longévité pour une présidence américaine. Et quelle présidence, quel contexte ! 8 années de paix menacée et 4 années de guerre mondiale. En 1934, Eleanor intervient à la radio dans un programme où elle parle de l'éducation des enfants. À partir de 1935, elle pose par écrit, 6 jours sur 7, ce qu'elle pense de l'état de l'Amérique et du monde dans un magazine appelé My Day. Les Américains, surtout les Américaines, suivent son combat au quotidien contre les injustices. Elle y parle de la condition des Noirs, des programmes sociaux, de l'alcoolisme, de la place des femmes, allant jusqu'à pousser son président de mari à nommer à des postes administratifs des femmes et des personnes issues des minorités visibles. Elle devient aussi très populaire, car elle n'hésite pas à sillonner l'Amérique marquée par la crise économique. On la voit partout. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, elle poursuit son travail de militante, cette fois au service des forces armées. Elle est « Ma tête et mes jambes », se plaît à répéter le président Roosevelt, que l'infirmité condamne à rester souvent à son bureau. Lui qui ne peut pas partir pour le Pacifique Sud pour soutenir le moral des troupes, eh bien qu'à cela ne tienne, c'est Eleanor qui le fait pour lui. On la voit partout, et elle est désormais appelée, le terme lui va très bien, la « First Lady of the World », la première dame du monde.
This program to bring you a special news bulletin from CBS World News. A press association has just announced that President Roosevelt is dead. The president died of a cerebral hemorrhage.
Et lorsque le président Roosevelt meurt en avril 1945, à quelques jours de la capitulation de l'Allemagne et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, Eleanor ne conçoit pas de rentrer dans l'obscurité. Plus que jamais, on a besoin d'elle. On a besoin de ses combats. D'ailleurs, le nouveau président américain, Harry Truman, connaît sa valeur et sa capacité de persuasion. Alors, elle devient la déléguée des États-Unis auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies, une organisation internationale nouvellement créée pour maintenir une paix durable à travers le monde. Dans le même temps, elle est nommée présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. C'est là qu'elle va s'atteler à l'œuvre de sa vie, la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une déclaration inspirée, vous vous en doutez, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française de 1789. Mais cette fois, pour parler au peuple du monde entier, elle a voulu que cette nouvelle Déclaration des droits de l'homme s'adresse de façon respectueuse à toutes les cultures, à toutes les croyances, et qu'elle soit rédigée dans une langue accessible à tous. Cette déclaration de 1948 sera le grand legs d'Eleanor à la postérité. Ce sera son grand œuvre.
We're considered to be the most essential rights for all people to have throughout the world.
Eleanor est désormais l'une des femmes les plus respectées au monde. Elle siège aux Nations Unies jusqu'en 1953. Elle a alors près de 70 ans et quelques 50 années d'engagement derrière elle. Il est temps que d'autres reprennent le flambeau, se dit-elle. Quelques années plus tard, elle meurt dans son sommeil, paisiblement, le 7 novembre 1962. Le président Kennedy, qui a repris beaucoup de ses combats, fait mettre en berne les drapeaux américains. Le New York Times salue en elle l'une des femmes les plus estimées du monde. Et à l'automne 1962, malgré les hauts et les bas qui ont accompagné leur vie de couple, Eleanor rejoint dans la tombe Franklin, dans leur propriété de Hyde Park. Retenons d'elle, au moment de nous quitter, les amis, cette belle citation qu'elle a faite sienne et que je fais mienne. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Oui, parce qu'elle a cru en ses rêves, notre vilain petit canard Eleanor, que sa mère repoussait lorsqu'elle était petite, s'est muée en femme d'exception. Une femme en avance sur son temps. Une femme qui s'est mise au service des autres toute sa vie durant. Avec engagement et constance, courage et détermination. Voilà les amis, entrée dans l'histoire, c'est fini pour cette semaine. Mais quelle semaine, hein, vous trouvez pas? Rappelez-vous, nous avons parcouru le monde avec la photographe Lee Miller. Nous avons rencontré le véritable Robinson Crusoe et nous avons rusé pour pénétrer la cité troyenne grâce au fameux cheval de Troie. Nous avons retrouvé le docteur Livingstone au fin fond de l'Afrique. Nous avons même défendu Dreyfus avec Émile Zola et assisté à la fin du dernier empereur des Incas, Atahualpa. Eh bien, sachez que tous ces épisodes sont à retrouver sur le site et sur l'application RTL, ainsi que sur toutes vos plateformes préférées. Mais dans un instant, vous avez rendez-vous avec les infos de la mi-journée. Bel été sur RTL.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire, la guitare dans tout l'air. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop. Quoi qu'il pèse, le ventre lourd, ou des certes d'amour. Je porte 100 000 drapeaux, mes idéaux et mes foutaises. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop. Aïe, 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 c'est tout fort de
attendais pas. Je porterai plus que mon package, je m'en fiche si tu me trouves lâche. Pas d'amour sans partage, pas d'amour sans partage. Aïe, 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 ce qu'il faut du courage pour te dévoiler. Aïe, 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 tu n'y vas pas.
Mais quelle voix, mais quelle voix. Clara Luciani, courage sur RTL.
RTL.
Place à votre rendez-vous d'information de la mi-journée. RTL, il est 12h30.
RTL Midi, Guillaume Ouattara.
Ah oui, bonjour à toutes et à tous, RTL Midi. Eh bien c'est parti, une demi-heure pour faire le tour de l'information de la mi-journée avec tous les journalistes de RTL mobilisés. Et à la une, le bouquet final pour le Tour de France. Les coureurs vont braver les pavés de Montmartre. On y sera dans un instant. Peu de surprise, hein, Pogacar devrait, selon toute vraisemblance, garder le maillot jaune bien vissé sur les épaules. Et tenez, en fait, les 50 ans de l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées. Dans le reste de l'actualité, dans l'Aude, le feu est désormais stabilisé, mais pas encore fixé. Plus de 600 pompiers restent mobilisés pour maîtriser l'incendie. 630 hectares de végétation ravagée, deux maisons sérieusement endommagées. Nous serons à Sigean, d'où le feu est parti. La Grèce connaît aussi des incendies sans précédent dans la région du Péloponnèse. On comptabilise 52 départs de feu. Le pays demande urgemment l'aide à ses voisins européens. À Gaza, l'aide humanitaire enfin acheminée après l'annonce ce dimanche d'une pause tactique dans plusieurs zones de l'enclave et la mise en place de couloirs humanitaires. Des premiers camions remplis de vivres arrivent dans le territoire en guerre. Des largages ont eu lieu cette nuit avec des victuailles pour la population qui vit sous la famine. L'Europe suspendue à la décision de Donald Trump sur les droits de douane. Ils sont censés augmenter dans 5 jours 30% sur toutes les importations venues de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, rencontre le président américain cet après-midi pour faire pencher la balance de l'autre côté. Des négociations de la dernière chance pour le secteur viticole français. Dans RTL Midi, un enfant de 7 ans sévèrement mordu par un requin. Ça s'est passé en Polynésie française. Les algues vertes sur le littoral breton, un véritable fléau pour l'environnement et pour l'économie. Et puis, alerte aux baïnes sur la côte ouest. On vous donnera les conseils pour un été en toute sécurité.
RTL Midi
avec Guillaume Ouattara.
Et on ouvre donc avec la grande boucle.
Tour de France 2025 sur RTL.
21e et dernière étape du Tour et ce bouquet final avec la butte Montmartre à Paris, les Champs-Élysées pour clore cette 112e édition du Tour de France. Il y aura 132 km entre Mantes-la-Ville dans les Yvelines et la plus belle avenue du monde. Le départ, il est à 16h25. 50 ans que le Tour de France arrive sur les Champs. La légende raconte que c'est Yves Mourouzi, alors présentateur du journal de 13h, qui aurait réussi à convaincre Valérie Giscard d'Estaing. De légende, il va être question aussi, car sauf malheur, c'est Tadej Pogacar qui remportera son 4e tour. Mais qui sortira victorieux de cette étape? Un sprinter? Un puncher? Un baroudeur? Eh bien la réponse, ça sera ce soir. En attendant, on prend la direction de Montmartre, où l'on vous retrouve, Flora Granchette. Bonjour!
Bonjour.
Flora, les spectateurs commencent déjà à se presser pour être aux premières loges de la grimpe sur les pavés parisiens.
Oui Guillaume, il y a déjà beaucoup d'ambiance dans la rue Le Pic. Les supporters encouragent les quelques cyclistes amateurs qui montent la butte. Ils sont vraiment acclamés comme des coureurs du Tour de France. Jean et Charles, passionnés de vélo, applaudissent à chaque passage.
Voir des sourires comme ça et voir des gens motivés, ça fait plaisir.
et ça donne envie d'encourager. C'est l'esprit Tour de France, c'est ce qu'on aime, rencontrer des gens, des sourires.
Là on est encore en train de s'échauffer, ça sera de plus en plus chaud, donc voilà. Comme il disait, c'est l'esprit Tour de France, on adore ça.
Pour passer le temps, ça chante, ça lit et puis ça joue aux cartes. Un peu plus haut dans la rue Le Pic, c'est même atelier banderole pour Kevin et Pedro.
Allez Pogacar, avec la tête de Vingegaard, ça passe toujours.
Kevin, t'es le meilleur.
Ambiance.
Faut mettre l'ambiance. Tour de France, une fois par an, faut mettre l'ambiance. On est sur du 5-6 heures à attendre.
Autant le faire en rigolant.
Voilà.
Et pour patienter avant 18h30, les deux amis ont déjà repéré la buvette et ont leur chaise pliante et la glacière.
Merci beaucoup Flora Grandchotte. Bah, vous pouvez aussi aller à la buvette. Tiens, vous étiez à Montmartre pour RTL. Une étape assez symbolique. Il paraît même qu'on va ouvrir un peu les bouteilles de champagne avec beaucoup de modération. Mais ça ne sera pas pour autant la plus facile. C'est ce que nous disait ce matin Thierry Gouvenou. C'est le directeur de la course.
On veut qu'il y ait du sport sur cette étape-là. Alors la particularité de la côte de Montmartre, c'est qu'elle est en pavé déjà. Elle est assez étroite. Et donc ça va obliger les coureurs à faire beaucoup d'efforts pour être bien placés au pied. Et puis après, ben, il faut avoir l'aptitude de rouler sur des pavés, donc c'est pas donné à tous les coureurs. Oui, c'est évident que ça va rajouter du stress parce qu'il va y avoir une vraie compétition. Après, les coureurs sont dans leur rôle. Hein. Lorsqu'on leur propose des chemins blancs l'an passé, voilà, ils râlaient. Mais si le Tour de France avait été resté toujours figé dans ses schémas, il n'y aurait jamais eu d'évolution et le Tour n'aurait jamais connu cette expansion. Quoi.
Le directeur de la course, Thierry Gouvenou, au micro RTL d'Antoine Decarne. Et cette dernière étape, ce sera évidemment à suivre sur l'antenne de RTL. Je vous donne le dispositif. À partir de 16h, toutes les demi-heures, ça sera dans les flashs. Et puis, antenne spéciale pour l'arrivée entre 19h et 21h. Vous suivrez la course avec Hortense Crépin et les envoyés spéciaux de RTL. Et entre 18h30 et 19h, on refait le sport avec Cédric Chasseur. Dans l'Aude, plus de 630 hectares sont partis en fumée ces dernières heures après un incendie violent. Incendie désormais stabilisé mais pas fixé. Ça veut dire qu'on redoute une reprise, notamment à cause des vents violents qui continuent à souffler ce dimanche. Le risque d'incendie reste très élevé selon le sous-préfet de l'Aude. 600 pompiers, 180 véhicules sont toujours mobilisés pour maîtriser l'incendie. Deux Canadair, deux hélicoptères bombardiers sont en soutien. Valentin Larquier, vous avez pu rencontrer une habitante encore sous le choc de la violence de l'incendie.
Béatrice se gare au bord du champ dont elle est propriétaire. Lorsqu'elle descend de sa voiture, elle constate le chaos, des hectares de végétation partis en fumée.
C'est ignoble. C'était un petit paradis. Voilà, plein de verdure, le seul coin ici protégé, qu'on essayait de garder au maximum protégé. Et là, c'est un champ de ruines noires.
Elle loue une partie de ses 14 hectares à Damien, un jeune éleveur de volailles qui a tout perdu dans l'incendie.
C'est une famille avec 4 enfants à nourrir. Et voilà, donc une cagnotte est mise en ligne et tout le monde essaye de participer, mais ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ont vraiment démoralisé. Ils ont subi les inondations et maintenant le feu. Donc...
Vous savez s'il a pu sauver des animaux ?
Il y en a quelques-uns, on voit quelques poules qui courent un peu à droite à gauche là, mais il y a le sol qui est très chaud encore. Ils ont ouvert en fait les cabanes pour que les poules s'en aillent et se sauvent. Voilà, c'est un désastre.
Elle a désormais une crainte que le vent fasse repartir le feu. Des rafales à 80 km/h sont attendues dans la journée.
Valentin Larquier, correspondant de RTL dans l'Aude, et ses conditions météo propices au départ d'incendie sont présentes chez nos voisins européens. Comme chez nous, ils subissent des départs de feu. C'est le cas en Bosnie ou encore à Chypre, dans la région Limassol, où les feux ont parcouru 10 000 hectares. Et en Grèce, c'est dans la région du Péloponnèse, à l'ouest de la capitale Athènes, que les flammes ravagent les végétations et les habitations. 52 départs de feu en 24 heures, les pompiers pleinement mobilisés. Le pays, Alexia Kefalas, vit désormais au rythme des incendies.
Oui, depuis hier, les médias interrompent leur programme.
Interruption spéciale, on fait le point sur la situation.
Pour transmettre l'évolution des fonds incendiaires, en ce jour 7 de canicule avec des températures de plus de 45 degrés, les pompiers luttent contre 4 méga-feux ce midi, attisés par des vents de plus en plus violents. Péloponnèse, Crète, Eubée, mais aussi l'île de Citer, où selon le porte-parole des pompiers Vassilis Vatarogiannis, la situation est compliquée.
C'est une île où il est difficile d'envoyer du renfort terrestre qui pourrait agir la nuit.
Maisons, ruches, oliviers ont été brûlés et un monastère est en danger depuis ce matin. Deux avions italiens sont attendus dans la journée, alors que des unités spécialisées venant de République tchèque sont déjà en action. Ce dimanche est classé sous haute tension.
Merci pour ces précisions, Alexia Kefalas, correspondante de RTL en Grèce. C'est peut-être le rendez-vous de la dernière chance. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, rencontre cet après-midi le président américain Donald Trump. C'est en Écosse, puisqu'il passe un week-end prolongé dans l'un des golfs de son entreprise familiale. Pour le président américain, il y a une chance sur deux d'arriver à des négociations sur les droits de douane. L'ultimatum, il est proche. Le 1er août prochain, les produits européens importés aux États-Unis se verront infliger une taxe douanière de 30%. Alors pour la filière viticole, ce serait une catastrophe. C'est ce qu'a dit tout à l'heure sur notre antenne Jean-Marie Fabre. Il est président de la Confédération des vignerons indépendants de France.
Les États-Unis, c'est le premier pays à la consommation au monde. Et nous y réalisons là-bas la filière viticole dans son ensemble, un petit peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Et même pour vous, les vignerons indépendants, donc on a envie de dire les petits viticulteurs.
Oui, bien sûr, vous savez, ces TPE, ces PME artisanales que sont les vignerons indépendants, c'est aujourd'hui un petit peu plus de 60% du chiffre d'affaires du secteur. Et les États-Unis, ça représente à peu près un tiers de leur chiffre d'affaires export. Donc vous voyez, c'est bien un pays clé, un pays majeur, et donc un pays sur lequel, si demain le commerce venait à se rétrécir, à se replier, il y aurait des conséquences directes pour l'équilibre économique de ces entreprises familiales et artisanales.
Jean-Marie Fabre, le président de la Confédération des vignerons indépendants de France, au micro ce matin d'Antoine Cavallero. Allez, restez avec nous sur RTL, la suite d'RTL Midi et ces premiers camions d'aide humanitaire qui sont arrivés ce matin dans la bande de Gaza, 5 mois après un blocus mis en place par Israël. Alors qu'est-ce que cela va changer? La famine qui touche une partie de la population peut-elle s'arrêter? Les réponses, c'est juste après ça.
Guillaume Ouattara.
RTL Midi.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Il paraît qu'avec votre appli Mon Leclerc, je peux trouver un Leclerc pas loin pendant mes vacances et profiter de tous vos bons plans.
Oui, c'est pratique, hein.
Super pratique. Sauf que je crois que j'ai oublié mon téléphone à la maison.
Robert, je l'ai. Il était dans ton bob.
Ah, bonne nouvelle. Et cet été, pour consulter toutes nos promos partout en France, retrouvez vos tickets de caisse et votre carte Leclerc. Rendez-vous dans l'appli Mon Leclerc.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Disponible sur iOS et Android. Plus de détails sur www.e.leclerc, rubrique application mobile.
Du 29 août au 8 septembre, venez vivre avec RTL la 79e foire de Châlons en Champagne.
13 hectares de gastronomie, d'agriculture, d'automobile, d'ameublement, de convivialité et de musique. Car la foire de Châlons, c'est aussi foire en scène avec les plus grands artistes français.
Yannick Noah, Oshi, Eddy de Pretto, Amir ou encore Jean-Louis Aubert.
Venez acheter votre billet pour la foire, 7€ la semaine. 8 euros le week-end. Réservation sur foireenseigne.fr.
Rendez-vous dès le 29 août à la foire de Châlons en Champagne avec RTL.
Oh là là, vous avez vu ces températures? Quand on monte dans la voiture, il fait une chaleur. Alors forcément, vous mettez la clim et regardez votre pare-brise. Vous voyez un impact? Avec le chaud-froid, ça risque de fissurer. Alors avant que ça craque, venez vite chez Carglass. Chez nous, votre impact en 30 minutes, c'est réparé. Et en ce moment, vos balais d'essuie-glace Bosch, c'est offert. Vous avez juste à faire réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise en prenant rendez-vous sur carglass.fr. Alors profitez-en maintenant, c'est jusqu'au 8 août.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Guillaume Ouattara, RTL Midi.
Midi 42 sur RTL. Les premiers camions chargés d'aide humanitaire en provenance de l'Égypte ont fait leur entrée ce dimanche dans la bande de Gaza, assiégée et affamée. Bonjour Betsabé Salem.
Bonjour.
Correspondante de RTL à Tel Aviv. Betsabé, Israël a donc annoncé une pause quotidienne des combats dans certains secteurs à des fins humanitaires. Est-ce qu'on sait comment les distributions vont s'organiser?
Écoutez, le système mis en place consiste à sécuriser à la fois les routes empruntées par les convois d'aide humanitaire et la distribution elle-même dans une large partie du centre et du sud de Gaza, en zone très densément peuplée, où une trêve de 12 heures par jour qui a commencé ce matin facilitera donc l'acheminement de l'aide, mais aussi les déplacements de population pour recueillir cette aide. Ce nouveau mécanisme mis en place en coordination avec les Nations Unies et les ONG internationales permet de remédier aux problèmes d'insécurité auxquels ces organisations populations ont été confrontées ces dernières semaines en raison des combats. Ce matin déjà, des camions en provenance d'Égypte sont entrés dans Gaza avec de la nourriture et des biens de première nécessité. Plusieurs dizaines d'autres sont en route depuis la Jordanie. Une fois dûment inspectés par Tsahal, ils devraient eux aussi entrer dans la bande de Gaza. Avec ce risque, souligne-t-on en Israël, que le Hamas ne s'empare d'une partie des denrées. À venir aussi de nouveaux largages aériens d'aide humanitaire sur Gaza après ceux effectués hier soir par l'armée de l'air israélienne elle-même.
Précision signée Betsabé Salem, merci, correspondante de RTL à Tel Aviv. L'armée israélienne a intercepté hier soir le bateau Andala, exploité par le mouvement Flotti pour la Liberté, bateau qui se dirigeait vers Gaza, chargé d'aide humanitaire. Deux élus de la France Insoumise faisaient partie de l'expédition et le bateau est arrivé en Israël. En Polynésie française, dans l'archipel des Marquises, un enfant de 7 ans a été grièvement mordu au bras et à la jambe par un requin alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Selon l'une des secouristes, les blessures étaient longues et profondes. L'animal aurait été attiré par les rejets de poissons effectués à proximité par des pêcheurs. Et puis à Clermont-Ferrand, un homme a été grièvement blessé par balle tôt ce matin près d'un point de deal, c'est ce qu'indique le parquet. La victime, dont l'identité reste inconnue, a été touchée à deux reprises et retrouvée au sol peu avant 6 heures dans le quartier de la gare. Son pronostic vital est engagé. Une enquête pour tentative d'assassinat a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée. À 12h44 sur RTL, on vous parle de ces algues vertes qui pourrissent vraiment le littoral breton. À Élion, dans les Côtes d'Armor, les tonnes d'algues qui s'échouent sur le sable ne sont pas toujours ramassées. Certaines zones protégées sont interdites aux engins de nettoyage. Résultat, eh bien sur place, elles dégagent des gaz potentiellement dangereux et forcent parfois les autorités à fermer les plages en plein cœur de l'été. La maire Annie Guenou tire la sonnette d'alarme.
Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on nettoie les plages durablement, que les gens puissent se promener. Au bout de plusieurs années, ça n'avance pas. Il y a trop de freins. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis pour trouver des solutions. Eh ben non, on ne peut rien faire. Impossible de venir là. On se bagarre, on met des choses en place, on prévoit des réunions, on fait plein de choses. Une fois que les algues sont parties, je vois l'année dernière, il va y avoir un rétro-planning, etc. La personne expert à l'époque qui était en charge du dossier, qui était très compétent, très motivé, etc. Il est parti dans le Finistère, donc affaire classée. Donc du coup, le dossier est resté en stand-by, comme d'habitude. J'appréhendais l'arrivée du mois de mai. Je me dis, ça y est, ça va encore recommencer. Et ben, ça a recommencé, de toute façon, c'est ça. L'idéal, on ferme tout l'été, comme ça, il n'y a plus de soucis. Mais non, parce que de ce fait-là, ce que je dis, on va nous oublier. Plus personne ne va s'inquiéter. Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est surtout qu'on ne peut pas répondre de manière positive et pérenne à la population. Je suis démoralisée. On n'en voit pas le bout et on ne voit pas d'amélioration. Et voilà.
Un propos recueilli par Charles Guyard pour RTL. 5 départements de la façade ouest de la France en alerte maximale aux baïnes. Prudence donc si vous passez vos vacances dans la zone. Les baïnes, ce sont ces courants particulièrement forts qui forment une cuvette et qui peuvent vous entraîner très loin au large. Alors comment faire si vous souhaitez tout de même vous baigner ce dimanche? Les conseils de Guillaume Counil, responsable de la surveillance des baignades Médoc Atlantique. Son équipe intervient 2 à 300 fois par an sur ce type de sauvetage.
Le meilleur des comportements, c'est d'abord de venir dans les zones de baignade surveillées pendant les heures de surveillance. Les zones de baignade surveillées, maintenant, elles sont matérialisées par des flammes rouges et jaunes. Malheureusement, on a une baïne tous les 300-400 mètres, donc à très peu de distance, vous pouvez vous trouver dans un endroit où qui vous paraît calme, justement parce qu'il y a moins de houle dans ces courants de baïne, moins de vagues. Pour autant, ben, vous êtes dans la zone dangereuse et vous faire emporter assez rapidement vers le large.
Si on est pris dans une baïne, est-ce qu'il y a un comportement particulier à adopter?
Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, puisque toutes les baïnes ont un fonctionnement différent. Donc maintenant, si on est emporté, eh bien, il y a quelques conseils de prudence supplémentaires à adopter, c'est-à-dire ne pas se baigner seul. Malheureusement, essayer de se signaler, ne pas paniquer lorsqu'on est pris et qu'on n'arrive plus à regagner le bord.
Guillaume Counil, responsable baignade Médoc Atlantique, répondait aux questions d'Hermine Leclèche pour RTL. La météo, Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour Guillaume.
Toujours beaucoup d'instabilité dans la plupart des régions cet après-midi.
Oui, mais en dehors des régions méditerranéennes qui auront certes du soleil, mais malheureusement toujours beaucoup de vent. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h en pointe du Roussillon à la Provence, 60 km/h en Corse. Partout ailleurs, des nuages en pagaille, des éclaircies tout de même sur la façade ouest, Normandie comprise, avec des averses très succinctes. A contrario, les grains orageux resteront fréquents dans l'est et les averses nombreuses de l'Auvergne aux Pyrénées. Nord, centre et Île-de-France, à la jonction entre ces deux tendances, peuvent espérer de plus en plus de lumière. lumière avant la fin de l'après-midi. Restent les températures parfaitement stables, de 20 degrés à Aurillac à 31 degrés à Marseille, comptez 22 degrés à Hendaye et 24 à Paris, à Vichy et à Annemasse.
Merci beaucoup Valérie Quintin pour cette météo.
RTL Midi avec Guillaume Ouattara.
Et on revient sur cette situation humanitaire catastrophique sur la bande de Gaza, une famine documentée par de nombreux journalistes, par de nombreux témoignages. Bonjour Amand Bazerolle.
Bonjour.
Vous êtes responsable des opérations d'urgence de Médecins Sans Frontières à Gaza. Des pauses tactiques quotidiennes dans plusieurs zones, l'ouverture de corridors humanitaires, de premiers camions qui sont en train d'arriver dans l'enclave palestinienne. Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles selon vous ?
Oui, ce sont de bonnes nouvelles qui sont attendues depuis très longtemps, suite à 5 mois de blocus quasiment complet sur la bande de Gaza et d'une population qui est complètement affamée aujourd'hui.
L'aide humanitaire est en train d'arriver. Est-ce que l'on sait, grâce à cette pause tactique, combien de camions pourront arriver chaque jour dans la bande de Gaza ?
Écoutez, j'ai pas le chiffre exact, mais on sait les besoins, on l'a toujours dit, il nous faudrait 600 camions par jour. On l'a vu pendant la trêve qui s'était extrêmement bien passée, avec de la livraison de nourriture et de biens directement auprès des populations. Et ce système doit être remis en place de manière continue et non pas de manière épisodique.
Parce que là, ce qui est dit, c'est qu'il y aura quoi, à peu près une dizaine d'heures de trêve par jour, dans certaines zones uniquement. Est-ce que c'est suffisant à votre sens ?
Ce qu'il faut, c'est pour pouvoir sécuriser l'arrivée de l'aide, que les camions puissent arriver sans entrave jusqu'au destinataire. Et c'est ça sur lequel il faut travailler. Aujourd'hui, si c'est continu, les gens seront rassurés et n'auront pas besoin de se précipiter pour essayer d'attraper un sac de farine, de peur de ne pas faire partie des destinataires. Donc, dans la mesure où les choses seront organisées en quantité suffisante et à nouveau, je le dis, de manière continue, ça devrait permettre de sécuriser les convois et d'arriver directement au destinataire, c'est-à-dire l'entièreté de la population de Gaza aujourd'hui qui est en besoin d'assistance alimentaire.
Justement, est-ce que vous savez un petit peu comment cette aide elle va être redistribuée pour pas qu'on assiste à ce que vous décrivez, des scènes de panique, des scènes où les gens se précipitent par peur de manquer ? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur cette distribution de l'aide ?
Alors, MSF, non, mais les autres organisations qui se chargent de la distribution de la nourriture le font. Les informations vont très vite à Gaza, les gens sont informés, les gens savent ce qui se passe. Donc, on va remultiplier, ils vont rouvrir des centres et organiser des listes de distribution pour que les gens sachent qu'ils vont recevoir leur colis et d'être organisés comme ça l'était. Le système était en place, il a été décidé par les Israéliens de l'arrêter sur des prétextes de détournement de l'aide qu'aujourd'hui, un rapport de USAID, l'agence de développement américain, contredit en disant qu'il n'y avait aucune preuve aujourd'hui de détournement de l'aide par le Hamas pendant cette période.
Il était temps, disiez-vous en préambule de cette interview, puisqu'on était arrivé dans une situation de famine terrible. On a vu dans les médias français, européens, ces images terribles de corps décharnés, d'enfants notamment. La situation à Gaza était horrible.
La situation est horrible. Il n'est pas temps, il est trop tard. Il y a déjà des gens qui sont morts et ça aura des conséquences sur la santé de cette population pour à vie. Aujourd'hui, des retards de croissance, des enfants qui ont été mal nutris, ça va être très difficile pour certains, vu le tableau médical dans lequel ils sont, de réintroduire la nourriture. Il va falloir le faire via des centres de santé pour être avec eux, pour les accompagner parce que leur corps aujourd'hui n'est plus capable de digérer. Ils ne savent plus, le corps n'est pas capable de le faire puisqu'il ne l'a pas fait depuis des semaines. Et donc, il va falloir réintroduire et réapprendre ces gestes-là pour certains d'entre eux qui sont dans les situations les plus critiques.
Israël a annoncé qu'elle allait réalimenter une usine de désalinisation de l'eau re-raccordée au réseau électrique de l'État hébreu. Ça pourrait permettre de fournir de l'eau potable à 900 000 habitants. C'est presque le fait que ça a été coupé qui peut choquer aujourd'hui, qu'on empêche des habitants d'avoir accès à de l'eau potable.
Absolument. Aujourd'hui, elle était alimentée via des générateurs qui ne permettent de produire que 20% de ce qu'il est possible de produire avec l'électricité directement raccordée. Donc aujourd'hui, on va pouvoir redistribuer cette eau, sachant qu'il faut toutefois l'acheminer auprès des destinataires. À nouveau, tous ces colis, tout ça est extrêmement lourd. Il n'y a que par l'acheminement direct auprès des populations dans des points vraiment nombreux que l'on peut permettre de distribuer l'eau, la nourriture et tous les besoins. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à la rue. Il va falloir redistribuer aussi des tentes. Les gens, il n'y a plus de bâtis à Gaza. Les gens sont tous dans des abris, soit de fortune, soit qui se dégradent énormément vu les conditions à l'air, au soleil et au sable.
L'une des autres manières d'acheminer l'aide humanitaire, ça a été les largages organisés notamment dans la nuit par Israël. Ces largages-là, c'est inefficace ou c'est mieux que rien ?
C'est inefficace parce qu'on ne sait pas si ça va atteindre d'une les populations qui en ont besoin. C'est insignifiant. Un largage d'un avion, c'est un camion. Donc alors qu'on peut en faire rentrer des dizaines qui attendaient de toute façon pour rentrer. Donc et surtout c'est dangereux et on l'a déjà constaté auparavant dans des zones extrêmement densément peublées. D'autant plus aujourd'hui que ils se regroupent sur 15% du territoire, 2 millions de personnes. C'est extrêmement dangereux avec voilà, des risques que ça tombe sur des gens et on l'a vu à l'époque quand ça avait été organisé précédemment, ça avait déjà fait des morts. Donc aujourd'hui, il faut arrêter que la distribution alimentaire tue des gens.
Amande Bazerolle, je rappelle que vous êtes responsable des opérations d'urgence de Médecins Sans Frontières à Gaza. Vous qui êtes en contact avec le terrain, qui suivez évidemment toutes ces opérations au quotidien, est-ce que vous pensez que la reconnaissance annoncée jeudi de l'État de Palestine par le président Emmanuel Macron peut faire bouger les lignes ?
Ben, on espère que ça va faire boule de neige. Aujourd'hui, il est bien que enfin les gouvernements prennent des mesures pour montrer et essayer de faire pression sur l'État israélien, pour montrer que ce qui se passe à Gaza est absolument inacceptable. Et c'est surtout essayer de trouver une solution politique à ce conflit, ce qui n'a pas été le cas depuis le début, puisque les Israéliens avaient claqué la porte des négociations sur la seconde phase lors de la précédente trêve qui avait été mise en place depuis le 19 janvier.
Merci beaucoup à Amande Bazerolle, je rappelle que vous êtes responsable des opérations d'urgence de Médecins Sans Frontières à Gaza. Merci d'avoir été sur l'antenne de RTL.
Merci.
À 12h54 sur RTL, on revient sur les violents incendies dans l'Aude. 630 hectares partis en fumée. Nous sommes en direct avec Michel James, le maire de Sigean. Bonjour.
Oui, bonjour.
Sigean qui fait face donc à ces terribles incendies. Où en est la situation à l'heure où l'on se parle ? Est-ce que le feu continue à progresser ou bien est-ce qu'il est complètement maîtrisé ?
Alors le feu effectivement a démarré hier en tout début d'après-midi dans un secteur de ma commune en frôlant rapidement de nombreuses habitations et progressivement dans la violence du vent et dans le feu avancé et s'est déplacé pour aller sur des zones boisées et vers des communes voisines. Donc à l'instant là le feu est maîtrisé. Il y a une surveillance constante évidemment des pompiers puisqu'il y a de temps en temps il peut y avoir de temps en temps des petits départs, mais il n'a pas été nécessaire aujourd'hui d'engager les forces aériennes qui hier sont intervenues en force puisque nous avons pu bénéficier quasiment de la moitié de l'effectif aérien français.
Votre commune est la plus touchée par cet incendie. Quels sont les dégâts ? Il y a des habitations qui ont été détruites ?
Alors, il n'y a pas d'habitation formellement détruite. Il y a deux habitations qui sont touchées, dont une qui a été sévèrement touchée. Il y a une ferme avicole, un élevage de poules bio qui a été très endommagé. Peu de mortalité au niveau des volailles et heureusement, mais de gros dégâts au niveau des infrastructures. Là, j'y suis actuellement, je suis avec le propriétaire, nous sommes en train de faire un petit bilan et pour évaluer ses besoins les plus immédiats. Donc, il est un peu plus loin une culture de fleurs pour la cuisine aussi qui a été fortement touchée. Et voilà, mais au niveau des maisons, le feu, grâce à l'intervention massive des pompiers hier après-midi, a pu être arrêté à quelques mètres des lotissements.
C'est le troisième incendie qui brûle plus de 400 hectares dans le département depuis le début de l'été. À chaque fois, j'imagine, c'est un pincement au cœur de voir toute cette végétation et même ces habitations vivement endommagées.
Ben oui, alors, vous savez, nous étions hier en situation critique justement par rapport aux incendies. Nous savons très bien que la combinaison de la chaleur, de la sécheresse et du vent est un facteur aggravant. Voilà. Pour les deux autres incendies que vous évoquiez, bon, les causes sont, je pense, les causes sont maintenant connues. Pour ma commune, c'est pas encore. Hein, on ne sait pas d'où est parti le feu. Il y a des rumeurs qui circulent en ville, mais on sait bien qu'elles sont totalement infondées. Elles ne reposent elle ne repose sur rien, dont l'enquête dira d'où est parti l'incendie. Mais il est vrai que dès qu'un incendie démarre et attisé par un vent violent, et la sécheresse favorise donc une propagation très très rapide de l'incendie, surtout au début quand toutes les forces des pompiers n'ont pas pu être engagées encore.
L'enquête effectivement est en cours, mais le sous-préfet nous racontait ce matin sur RTL cette scène assez hallucinante. Hier, les gendarmes ont verbalisé un automobiliste qui jetait son mégot en pleine zone d'incendie. C'est quoi ? C'est du manque de civisme ou c'est de la bêtise ?
Je pense que c'est de la bêtise. Vous savez, nous avons constitué, toutes les communes ont constitué ici une réserve communale de sécurité, des comités feux de forêt qui patrouillent. Lorsque nous patrouillons, il nous arrive de trouver, alors pas, nous ne prenons pas les personnes en flagrant délit, mais nous voyons que des personnes ont fait des feux pour faire des grillades, et ce, dans une pinède, c'est-à-dire sous des